Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 6 juin. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour une heure en français. Au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine et aussi un hommage à l'ancien Premier ministre de l'île Maurice, Sir Anirudh Jugnauth, décédé il y a quelques jours à l'âge de 91 ans. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 6 juin, le Victoria a enregistré deux nouveaux cas de coronavirus acquis localement depuis hier. Les pays du G7 s'entendent sur un accord fiscal historique ciblant les entreprises multinationales et technologiques. Tennis à Roland-Garros, Nadal, Federer et Djokovic seront présents pour la deuxième semaine de compétition après leur victoire hier samedi. Le Victoria a enregistré deux nouveaux cas de coronavirus acquis localement depuis hier. Il y a également eu 6 nouvelles infections enregistrées en quarantaine dans les hôtels. Plus de 29 000 tests ont été effectués et 19 940 vaccinations administrées hier dans les centres de l'État. Les experts disent qu'il est probable que la variante Delta provienne du système de quarantaine des hôtels. Les experts s'inquiètent aussi pour les écoliers alors que les autorités du Victoria poursuivent la recherche de l'origine de cette variante Delta du Covid-19 détectée pour la première fois en Inde. La professeure Raina McIntyre de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que la variante Delta avait un impact sur les jeunes enfants après la transmission entre deux élèves de l'école primaire de North Melbourne.
Worryingly, it's also causing a lot of outbreaks in schools. It seems more prone to affecting children, including primary school children. So for Australia, where there's a very low proportion of people vaccinated, it's a worry, and it also brings a new sense of urgency to getting those vaccination rates up.
La chef du Queensland, Anastasia Palaszczuk, n'a pas abandonné l'espoir d'une installation fédérale de quarantaine dans son État, malgré le rejet de sa proposition par le cabinet national. Une installation de quarantaine similaire, construite à cet effet, a reçu le soutien du Commonwealth dans le Victoria. Mais les plans du Queensland pour une installation de quarantaine près de Toowoomba n'ont pas répondu aux critères du gouvernement fédéral. Madame Palaszczuk a déclaré que les installations de quarantaine sont la responsabilité du gouvernement fédéral.
Now Scott Morrison wants to set his own Commonwealth criteria. Interesting. As a quarantine is a Commonwealth responsibility. If you set the criteria, you can design it, you can construct it, you can build it, you can operate it, and you can own it. Because the fact is, quarantine is a federal government responsibility.
Une nouvelle étude a révélé que l'application rapide des verrouillages est la bonne stratégie pour gérer les épidémies de Covid-19 et l'économie. Des recherches publiées dans la revue internationale PLOS ONE du 5 juin ont révélé que le verrouillage national de 8 semaines en Australie en 2020 a coûté 52 milliards de dollars à l'économie. Mais sans confinement, l'aide sociale et l'hospitalisation auraient coûté entre 260 milliards et 950 milliards de dollars. Le rapport estime également que l'Australie aurait pu faire face à quelque 30 000 décès sans verrouillage en 2020. Le Royaume-Uni a enregistré le plus grand nombre de cas quotidiens de COVID-19 en 3 mois, tandis que les infections en Inde diminuent. Les infections en Angleterre ont presque doublé la semaine dernière, car la variante Delta, détectée pour la première fois en Inde, se généralise au Royaume-Uni. Plus de la moitié de la population de la Grande-Bretagne est entièrement vaccinée contre le COVID-19, mais l'Organisation mondiale de la santé prévient qu'il pourrait y avoir un risque accru d'hospitalisation à cause de la variante Delta. Lawrence Young, professeur d'oncologie moléculaire à l'Université de Warwick, a déclaré que les restrictions en Grande-Bretagne pourraient devoir rester en place au-delà de la date limite pour la levée des restrictions le 21 juin prochain.
I think the big issue for us was always going to be, is this variant more transmissible? And by what proportion is it more transmissible? And unfortunately, it does look like this is more transmissible than the UK variant, and perhaps even 50% or even 100% more infectious. And that means that this is spreading much more rapidly than we'd anticipated. So it is a cause for concern.
Une proposition soutenue par la Nouvelle-Zélande visant à supprimer les tarifs sur les vaccins et les produits médicaux COVID-19 devrait être discutée lors du forum de l'APEC. Cette décision pourrait atténuer les retards dans la livraison de vaccins et de produits médicaux à travers les frontières. Les tarifs moyens de l'APEC sur les vaccins sont bas, à environ 0,8%, mais d'autres fournitures médicales sont soumises à des tarifs plus élevés. Pour de nombreux pays de la région Asie-Pacifique, le pourcentage de personnes vaccinées reste inférieur, notamment la Thaïlande et Taïwan, qui connaissent désormais de nouvelles vagues d'épidémies de COVID-19. La Nouvelle-Zélande, qui accueille la Réunion virtuelle, souhaite que les 21 membres comprennent que la distribution réussie des vaccins sera critique pour la reprise économique de la région. Les ministres des Finances du G7 se sont mis d'accord à Londres pour une taxation globale minimum de 15% pour les sociétés. Écoutez le chef du Trésor britannique, Rishi Sunak.
But I think the crucial thing for people to take away is the principle of fairness. That's what we've achieved today, to ensure that there's a level playing field for all types of companies. And whether it's people operating in tax havens or it's digital companies, we're going to level the playing field and inject that principle of fairness into our global tax system. That's the prize.
C'est un accord historique, selon le ministre français des Finances, Bruno Le Maire. Précision de Raphaël Rennes pour Radio France Internationale.
Google, Apple, Facebook, Amazon vont devoir payer plus d'impôts. Les GAFA sont particulièrement visés par l'accord conclu à Londres ce samedi. Les 7 pays les plus riches de la planète, le G7, s'est entendu pour fixer un taux d'imposition minimal et mondial sur les multinationales, 15% au moins. Cet accord provoque évidemment de nombreuses réactions. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, salue un engagement sans précédent. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se félicite sur Twitter d'un grand pas vers une taxation et une concurrence juste. Grande satisfaction également du ministre français des Finances, Bruno Le Maire.
C'est un accord historique. Pour la première fois depuis des années, les États membres du G7 sont capables de définir des règles pour le système international du 21e siècle. C'est un accord dont la France peut être fière. Cela fait 4 ans que nous nous battons dans toutes les enceintes européennes, internationales, ici au G7 ou au G20, pour qu'il y ait une juste taxation des gens du digital et pour qu'il y ait une taxation minimum à l'impôt sur les sociétés. Nous y sommes. Après 4 ans de combat, la France a eu gain de cause. Il y aura bien une taxation des gens du digital, il y aura bien une taxation minimale à l'impôt sur les sociétés pour éviter l'évasion et l'optimisation fiscale qui révoltent à juste titre nos compatriotes. C'est un accord ambitieux. Le taux minimal que nous avons fixé pour l'imposition des sociétés est à 15%. Et je dis bien 15% au minimum, c'est un point de départ et dans les mois qui viennent, nous allons nous battre pour que ce taux d'imposition minimale à l'impôt sur les sociétés soit le plus élevé possible.
En Afrique, au nord du Burkina Faso, l'attaque la plus meurtrière depuis 2015. Le dernier bilan, il y a plus de 130 morts. L'armée avait multiplié les opérations militaires dans cette région où l'organisation État islamique et Al-Qaïda sont actifs. Reportage de Yahya Boudani pour RFI.
Tout le pays est sous le choc depuis l'annonce de cette attaque. Un deuil national de 72 heures a été décrété par le président du Faso. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne au niveau de tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Les réjouissances populaires et les manifestations à caractère récréatif sont interdites également. Le chef de l'État a qualifié l'attaque de barbare et parle même d'une tragédie. Les médias ont changé leur programme pour la circonstance. C'est la première fois que le pays subit une telle attaque. Le bilan qui était de 100 est passé à 132 victimes, hommes, femmes et enfants confondus. L'attaque intervient quelques semaines après une tournée du ministre de la Défense dans plusieurs détachements militaires, dont celui de Séba. Le ministre d'État Chérif Sy y est allé pour encourager les forces en lutte contre le terrorisme. Et le 17 mai dernier, il était à Séba, non loin de Solan. Les images diffusées sur la télévision publique montraient des élèves sortis de leur classe, des populations qui vaquaient à leurs occupations. La vie avait repris à Séba. Donc cette attaque intervient comme une sorte de réponse à cette visite du ministre de la Défense dans cette province.
Et au nord de l'Irak, bombardement de drones turcs sur un camp de réfugiés. Et selon les autorités turques, ce bombardement est dû à cause de la présence du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Reportage Lucille Wasserman pour RFI.
Cette frappe a visé le camp de Marmour, dans le nord de l'Irak, où se trouvent de nombreux réfugiés kurdes de Turquie. Là où la présence du PKK est bien connue. Ce sont d'ailleurs ces hommes qui gèrent les entrées et les sorties du camp. Et c'est à ce titre que la Turquie a menacé la semaine dernière d'agir. Si les Nations Unies ne nettoient pas cet endroit, disait Recep Tayyip Erdogan, alors nous nous en chargerons en tant que membres des Nations Unies. La Turquie est-elle passée des paroles aux actes? Ses responsables ne l'ont pas confirmé, mais du côté de l'Irak, des députés kurdes ainsi que des sources sur place ont bien déclaré que ce bombardement avait eu lieu. L'opération en elle-même n'est pas très surprenante. Outre les menaces, la Turquie opère très régulièrement dans le nord de l'Irak pour viser les positions du PKK. Depuis un an, ces opérations se sont intensifiées dans les airs, mais aussi au sol. Une violation de la souveraineté de l'Irak, selon Bagdad, qui n'a pas encore réagi à cette nouvelle frappe. L'ambassadeur turc a régulièrement été convoqué par les autorités irakiennes dans le passé, mais aucune mesure majeure n'a été prise pour sanctionner la Turquie après ce genre d'intervention.
Une militante de Hong Kong a été libérée de détention policière un jour après avoir été arrêtée pour avoir rendu public un événement non autorisé pour marquer les 32 ans, le 4 juin, de la répression meurtrière contre les manifestants sur la place Tiananmen en Chine. Chow Hang-tung, vice-présidente de l'Alliance de Hong Kong, a déclaré que les accusations absurdes portées contre elle étaient un abus de pouvoir. Mademoiselle Tung a déclaré que les gens devraient commémorer l'événement en privé en allumant des bougies où qu'il se trouve.
Open your eyes and see what you are actually doing. What you are actually doing is to cover up the crime of the killers in 1989. You are deepening the wounds of all those families, victims who have been suffering for 32 years without justice. You are helping in consolidating this unjust one-party dictatorship.
Les Nations Unies exhortent le gouvernement canadien et le Vatican à enquêter en profondeur sur les tombes anonymes dans un ancien pensionnat en Colombie-Britannique. Cela survient après la découverte des restes de quelques 215 enfants autochtones dans les pensionnats de Kamloops la semaine dernière. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, lui-même catholique, a visé l'administration des écoles par l'Église catholique.
When I went to the Vatican a number of years ago, I directly asked His Holiness Pope Francis to move forward on apologizing, on asking for forgiveness, on restitution, on making these records available. And we're still seeing resistance from the church, possibly from the church in Canada.
En France, l'affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2017 avec Michel Marchand, dit Mimi, mise en examen. Précision d'Agnès Rougier pour RFI.
La mise en examen de Michel Marchand, patronne de l'agence Best Image et figure de la presse People, proche du couple Macron, fait suite à une information judiciaire ouverte fin 2020 après un entretien accordé au Liban en novembre dernier par Ziad Takieddine, un journaliste de Paris Match accompagné d'un photographe de Best Image. Ziad Takieddine, l'ancien témoin à charge contre l'ex-président français Nicolas Sarkozy, qui dans un premier temps avait accusé l'ancien président d'avoir touché de l'argent du dirigeant libyen Muammar Kadhafi pour sa campagne présidentielle, avait dans cet entretien retiré ses déclarations contre Nicolas Sarkozy. Mais en janvier 2021, interrogé par les juges d'instruction, Ziad Takieddine prétendait que ses propos avaient été déformés par Paris Match. D'après une source proche du dossier, outre Michel Marchand, quatre autres personnes sont aujourd'hui en garde à vue, dont l'ancien directeur de l'agence Publicis Arnaud de la Villebrune, l'homme d'affaires Pierre Reynaud et Noël Dubus, un escroc ayant déjà plusieurs fois séjourné en prison.
En Australie à nouveau, les écologistes ont lancé un grave avertissement selon lequel les populations de koalas en Australie sont en déclin. Les scientifiques disent que les décisions prises par les gouvernements au cours des 5 prochaines années détermineront l'avenir des koalas. Chris Gambian du Conseil pour la conservation de la nature de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que les gouvernements australiens ne faisaient pas assez pour protéger les koalas.
We'll get to a point where our kids won't be able to show their kids koalas in the wild. You'll only be able to see a koala in a museum or a koala in the zoo. We're not going to have koalas in the large numbers that we once had.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth, il fera 21 degrés, Adélaïde 19, Melbourne 17, Hobart 13, Canberra 15, Sydney 20, Brisbane 22, Cairns 26, Darwin 31 et à Alice Springs, un maximal de 21 degrés. Un rappel des grands titres de ce 6 juin, le Victoria a enregistré 2 nouveaux cas de coronavirus acquis localement depuis hier. Les pays du G7 s'entendent sur un accord fiscal historique ciblant les entreprises multinationales et technologiques. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le tournoi de Roland-Garros et hier, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont pu continuer tranquillement leur bonhomme de chemin comme nous l'explique Eric Mamrut pour Radio France Internationale.
Djokovic et Nadal, eux, eh bien, c'était une promenade de santé pour eux dans l'après-midi un petit peu plus tôt. 2h07 pour l'Espagnol, vainqueur 3 x 6-3 du Britannique né en Afrique du Sud Cameroun Nouri, encore plus rapide. Pour Novak Djokovic, 6-1, 6-4, 6-1 en 1h32 face au Lituanien Ricardas Berankis. Vite fait, bien fait. Facile pour le Serbe, bien pas tant que ça, a déclaré Novak Djokovic juste après le match. On l'écoute.
J'étais solide, je pense. Une belle sensation avec beaucoup de variations dans mon jeu. Peut-être pour les personnes qui observent, c'était simple, mais ce n'est pas comme ça simple. Mais les conditions sont différentes aujourd'hui. Et le dernier match était plus chaud. Rebond était plus haut, donc aujourd'hui un peu plus basse. On est nécessaire d'adapter sur cette condition, mais je pense que j'ai fait très bien.
Les autres favoris n'ont pas beaucoup plus souffert pour ce ici en huitième de finale. 3-7 pour Diego Schwartzmann, l'Argentin. Pour l'Allemand, Jan Lennart Struff. 3-7 encore pour l'Italien, Yannick Sinner. Pour son compatriote, Matteo Berrettini. 5-7 en revanche pour Lorenzo Musetti. Encore un Italien, pas mal pour ce jeune joueur de 19 ans qui découvre un tournoi du Grand Chelem. À l'exception donc de Dominic Thiem et d'Andrei Rublev. Tous les principaux favoris sont au rendez-vous, seront au rendez-vous de la deuxième semaine.
Et puis Roger Federer vient de gagner la session de nuit en 4 manches contre l'Allemand Kiefer. On écoute à nouveau Eric Mamrut pour RFI.
Oui, il s'est sorti de ce match piège face à un adversaire qu'il ne connaissait pas. Première confrontation avec cet Allemand Dominic Kupfer, 59e mondial. Un adversaire gaucher qui plus est, il n'aime pas ça. Dans des conditions fraîches et humides de la soirée parisienne, donc plutôt lente. Il n'aime pas trop ça non plus, l'attaquant suisse. En plus, un match à huis clos, sans public, couvre-feu oblige, tout était donc contre lui, donc le Suisse qui revient depuis peu à la compétition après un an d'absence et une double opération au genou droit. Finalement, après un long combat de 3h30, il s'est imposé sur le score de 7-6, 6-7, 7-6, 7-5 au caractère, à l'énergie, en jouant encore plus agressif qu'il ne le fait d'habitude en toute fin de match. Ça a fait la différence pour arracher la victoire et se qualifier donc pour les huitièmes de finale de ce tournoi où il affrontera l'Italien Matteo Berrettini. La marche sera encore plus haute pour Roger Federer face au 9e joueur mondial. Mais il a fait plaisir aux téléspectateurs, en tout cas ce soir, à ses supporters. Roger Federer qui se bat encore et toujours.
Et puis, chez les dames, que s'est-il passé hier, samedi? À nouveau, le reportage d'Eric Mamrut pour RFI.
Et l'hécatombe se poursuit après la défection de Naomi Osaka, l'abandon sur blessure d'Ashley Barty, la défaite hier d'Arina Sabalenka, soit le top 3 décapité. C'est la tête d'Elina Svitolina qui a valsé aujourd'hui la 5e joueuse mondiale, future Madame Monfils au mois de juillet, l'Ukrainienne balayée 6-3, 6-2 par la Tchèque Krejčíková. On n'oublie pas Karolina Plíšková, Bianca Andreescu, Garbiñe Muguruza, éliminée elle aussi prématurément. Résultat, le tableau féminin est totalement déplumé. Plus que 3 membres du top 10 encore présentes, les deux dernières finaliste, Iga Świątek, la Polonaise tenante du titre, et sa victime en octobre dernier, l'Américaine Sofia Kenin, on n'oublie pas l'éternelle, Serena Williams. Bref, la porte est ouverte pour les outsiders, les Stevens, Azarenka, Badosa, l'Espagnol et pourquoi pas, Ons Jabeur, oui, la Tunisienne qui s'est hissée aujourd'hui pour la deuxième année consécutive en huitième de finale à Roland-Garros. Elle a battu 3-6, 6-1, 6-0 la Polonaise Magdalinette. Elle se verrait bien aller beaucoup plus loin cette année, Ons Jabeur.
C'est un tableau assez surprenant, je dirais. Il y a beaucoup de place. Je dirais notre partie en haut est beaucoup plus compliquée que l'autre partie. Même on discutait avec d'autres joueuses. C'est un grand chelem. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut se battre pour être en deuxième semaine ou peut-être en quart ou en demi. Moi, personnellement, je suis bien. Je me sens bien. J'aime bien la terre. Je pense que je suis en train de beaucoup mieux jouer que l'année dernière et beaucoup plus confiante en ce moment. Donc voilà, je vais continuer à travailler encore plus dur et espérant que jouer encore mieux le prochain match.
Et le prochain match pour Ons Jabeur lundi en huitième de finale, ce sera la jeune américaine de 17 ans, Coco Gauff.
Depuis jeudi, tous les Français en simple ont été éliminé du jamais vu dans l'histoire du tennis français. Olivier Pron, Radio France Internationale.
Plus un Français après deux tours à Roland-Garros, c'est du jamais vu. En tout cas depuis le début de ce que l'on appelle l'ère Open, autrement dit l'arrivée du professionnalisme en 1968. Certains statisticiens sont même remontés jusqu'à 1925 sans trouver trace d'une telle bérésina pour les Bleus. 29 au départ, plus que 7 après le premier tour. Les quatre derniers sortis ce jeudi, deux hommes, deux femmes. Mais le fiasco avait commencé dès les qualifications avec 21 joueurs ou joueuses en lice et zéro à l'arrivée. Ce que l'on a appelé les nouveaux mousquetaires, les Tsonga, Gasquet, Monfils et Simon ont brillé, étaient membres du top 10, mais n'ont jamais gagné. Un grand chelem, 100 ans. Et aujourd'hui, ils sont pré-retraités, rien ne dit qu'on les reverra à Porte d'Auteuil. Et le problème, c'est que la nouvelle génération, au mieux, n'est pas prête, au pire, pas trouvée. Joe Wilfried Tsonga en a conscience et lance un appel.
Il y a des choses à faire, réunir les gens qui s'y connaissent, les gens qui ont envie, qui sont motivés pour faire avancer les choses. Je veux dire, on n'est pas les derniers. Tout le monde cherche un champion. En France, on en cherche. Il y en a, faut les faire évoluer et surtout pas avoir de frein ou un élastique dans le dos qui en permanence nous ralentit.
La Fédération française de tennis, qui vient de changer de gouvernance, peine à communiquer sur le sujet. Pourtant, il y a urgence et du pain sur la planche. Pour rappel, la dernière victoire d'un Français à Paris, c'était Noah en 1983.
Et puis parmi les joueurs italiens, il y en a quatre qu'on appelle les nouveaux mousquetaires. Coup de projecteur sur eux avec Eric Mamrut pour RFI.
Cette année à Roland-Garros, les mousquetaires sont italiens. Les deux prodiges, Yannick Sinner et Lorenzo Musetti, et les plus expérimentés, Matteo Berrettini, 9e mondial, et Marco Cecchinato. Fort de 10 joueurs dans le top 100 du jamais vu. Des mousquetaires azzurri pour qui le cri de guerre « un pour tous, tous pour un » n'est pas un leurre, comme le confirme le journaliste transalpin Ubaldo Scanagatta.
Il n'y a pas la rivalité qu'il y avait une fois entre le Panatta ne pouvait pas supporter Barazzutti et vice-versa. Ici, ils sont tous amis. Le coach de Berrettini va parler avec le coach Musetti. Ils mangent ensemble et chacun donne sa force à l'autre. Il y a un très bon climat que je n'ai pas remarqué dans le tennis italien depuis longtemps.
Depuis les années 60-70, l'âge d'or du tennis italien, avec les Pietrangeli, Panatta, Barazzutti et Gianni Oclet.
On était 5 dans les 30 premiers. Panatta a gagné Roland-Garros en 76. Il était 4e mondial. Barazzutti était 7e. Je crois que la nouvelle génération peut arriver à faire des résultats comme ça. En tout cas, ils ont beaucoup de talent. Ils ont beaucoup envie de jouer, de prouver ce qu'ils peuvent faire.
Et pourquoi pas imiter Adriano Panatta, dernier vainqueur italien d'un tournoi du Grand Chelem. C'était à Roland-Garros en 1976.
Cyclisme, on passe au critérium du Dauphiné libéré hier. L'étape de samedi a été remportée par l'Ukrainien Mark Padden. Richie Porte, l'Australien, garde le maillot de leader. On passe au foot. Les Parisiennes du PSG sont championnes de France pour la première fois de leur histoire, comme nous l'explique Christophe Diremzian pour RFI.
3-0 contre Dijon lors de la dernière journée a définitivement entériné la passation de pouvoir avec les grandes rivales lyonnaises, jusqu'alors inamovibles, championnes depuis, tenez-vous bien, 14 ans. Une énorme joie, on l'imagine, pour la capitaine du PSG, Irène Paredes.
Bah enfin, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de déceptions dans ces dernières années, mais bon, c'est du travail. Mais même des fois, si tu travailles beaucoup, beaucoup, et ça n'arrive pas. Mais aujourd'hui, c'est à nous et je suis hyper contente et on l'avait mérité. Et voilà.
Et puis en Afrique, les matchs de préparation aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022. Précision de Sylvie Berruet pour RFI.
Première marquée manquée pour Hector Cooper sur le banc de la RDC. Les Léopards se sont inclinés 1-0 en Tunisie. Autre événement de ce samedi de match amicaux, le succès du Cap-Vert 2-1 face au Brésil Olympique qui disputera les JO de Tokyo et celui du Togo contre la Guinée 2-0 à Antalya en Turquie. Premier succès depuis septembre 2019 pour les Éperviers. Moins surprenante, la victoire du Sénégal contre la Zambie 3-1 et celle de la Côte d'Ivoire opposée au Burkina 2-1. Ce sont pourtant les Burkinabés qui avaient ouvert le score grâce à Lassina Traoré avant l'égalisation d'Ibrahim Sangaré et le but dans les arrêts de jeu du jeune Ivoirien Amad Diallo. Son coéquipier Sébastien Allaire s'en réjouit. Les éléphants ont montré du caractère.
Très belle victoire, due au suspense. Je pense que le match était assez compliqué. On s'est rendu assez compliqué avec ce but en début de période. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a montré un très très bel état d'esprit. On a montré qu'on était là et qu'on savait sortir de ce genre de situation. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire qu'ils nous ont attendus et ils ont joué en contre. Donc voilà, je pense que c'était pas un match très facile aussi pour nous, dû aussi à la pelouse, donc pour construire c'est jamais très simple. Je suis le premier à penser qu'on aurait dû concrétiser avant pour se rendre le match plus facile, moi le premier, donc le plus important c'est la victoire et tout le monde est content.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Eh bien, comme chaque dimanche, nous revenons à présent sur un événement de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Coup de projecteur aujourd'hui sur la joueuse de tennis, Naomi Osaka.
Oui, Naomi Osaka, nouvelle star du circuit qui a craqué sous la pression. La japonaise a déclaré forfait à Roland-Garros, aux internationaux de France de tennis hein, qui se disputent en ce moment, avant son match du deuxième tour qu'elle devait disputer contre la roumaine Anna Bogdan. Naomi Osaka, on va y revenir, hein, était au centre d'une polémique depuis plusieurs jours, depuis qu'elle avait annoncé, juste avant le début du tournoi, qu'elle boycotterait les conférences de presse, qu'elle ne s'adresserait pas aux médias durant toute la quinzaine de Roland-Garros. Sa décision abrupte avait été vivement critiquée par les médias, mais aussi par les joueurs, les joueuses, les organisateurs du tournoi. Et après avoir gagné son premier match, dimanche 30 mai, premier tour contre Patricia Mariatig, roumaine, la pression est devenue trop forte pour la numéro 2 mondiale, Naomi Osaka, qui est âgée de 23 ans, vainqueur de 4 tournois du Grand Chelem, hein, 2 US Open, 2 Open d'Australie, dont le dernier au début de l'année. Naomi Osaka a publié finalement un deuxième message, un long message sur les réseaux sociaux lundi soir, où là, eh bien, elle a annoncé qu'elle se retirait purement et simplement du tournoi. Dans ce message, eh bien, elle explique qu'elle ne pensait pas créer une telle situation polémique en décidant de ne plus parler aux médias. Et c'est là qu'elle donne plus de détails sur les raisons qui l'ont poussée au départ à refuser les conférences de presse. La vérité, écrit-elle, la vérité est que j'ai traversé de longues périodes de dépression depuis l'US Open 2018, qui est sa première victoire en Grand Chelem. Et précise Naomi Osaka, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Elle poursuit dans ce message, je ne suis pas à l'aise pour parler en public et je ressens d'immenses vagues d'anxiété quand je dois m'adresser à la presse mondiale. À Paris, je me sentais déjà vulnérable et anxieuse, ajoute-t-elle. Elle a donc quitté Roland-Garros, Naomi Osaka, en plein tournoi. On ne sait pas quand on la reverra sur les courts. Elle a d'ores et déjà déclaré forfait pour le tournoi de Berlin, tournoi sur herbe hein, qui doit débuter le 14 juin. Elle est rentrée à Los Angeles. On ne sait pas si elle retraversera l'Atlantique pour être là à Wimbledon, à Londres, qui débute le 28 juin.
Cet épisode a mis en lumière la fragilité des champions. Quelles sont les réactions autour de cette affaire ?
Bien, dans un premier temps, Naomi Osaka a fait presque l'unanimité contre elle quand elle a annoncé quelques jours avant le début du tournoi de Roland-Garros qu'elle ne parlerait pas à la presse. Elle s'est justifiée de façon assez large en désignant les médias qui posent, écrivait-elle, toujours les mêmes questions et qui mettent, qui insinuent le doute dans la tête des athlètes. Mais elle n'a pas parlé dans ce premier message d'elle spécifiquement. Et là, donc, dans un premier temps, même si elle mettait en avant la santé mentale des sportifs qui étaient mis à mal par les médias, les réactions ont été assez rudes quand les autres joueurs, joueuses à Roland-Garros, au début du tournoi, ont été interrogés. Tous, dans leur ensemble, ont plutôt reconnu que, certes, les conférences de presse ou échanges avec les médias n'étaient pas toujours faciles et parfois conflictuelles, notamment après des défaites, mais que tout cela faisait partie du métier. Avec les sponsors, les médias sont là, ils font partie du circuit et sans médiatisation, hein, les joueurs, joueuses l'ont répété, tout champions qu'ils sont, ils ont besoin de cette médiatisation pour exister. Les organisateurs de Roland-Garros, ils se sont montrés, eux, intransigeants. Ils ont infligé à Naomi Osaka, après son premier tour, pour ne pas s'être donc présenté face aux médias une amende de 15 000 $, comme le prévoit le règlement. Et les fédérations des quatre tournois du Grand Chelem, Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open, ont signé un communiqué commun dans lequel ces fédérations menaçaient d'exclure Naomi Osaka des tournois, des Grands Chelems, si elle persistait dans son refus de ne pas vouloir parler aux médias. Face à cette escalade, elle a donc fini par craquer, par quitter le tournoi avant son deuxième tour. Les regards ont changé après ce départ et ce deuxième message où elle parle, hein, on a cité quelques extraits, de son anxiété, de ses périodes de dépression. Et depuis, chacun comprend mieux sa fragilité, son désarroi. Et Naomi Osaka est devenue finalement le symbole de ces sportifs hyper médiatisés, très jeunes, souvent 23 ans hein, seulement pour elle, on le disait, ces sportifs qui se sentent étouffés, broyés par le système médiatique. Novak Djokovic, Serena Williams ont dit comprendre le désarroi de Naomi Osaka. Ils lui ont apporté un soutien touchant après son départ de Roland-Garros. Les organisateurs du tournoi, eux, de Roland, eh bien, gênés aux entournures, ils ont fait marche arrière également en lui sontant un prompt rétablissement. Là aussi, il y a un malaise. Les anciennes gloires du circuit, qui elles aussi ont connu des moments de doute, de dépression, eh bien, sortent de leur silence pour parler de ces moments où l'on se le retrouve seul, où il faut affronter les médias. Et tout cela donc met en relief ce qu'est en train de vivre Naomi Osaka.
Il faut dire que la japonaise porte énormément de pression sur les épaules. Ces derniers mois, elle n'a pas hésité à prendre position sur des sujets de société.
Oui, Naomi Osaka, elle a grandi aux États-Unis, elle est métisse avec des racines et une histoire multiculturelle. Son père est haïtien, Haïti, dans les Caraïbes. Sa mère est japonaise. Sa première victoire en Grand Chelem 2018 à New York US Open contre Serena Williams, cette victoire a déclenché une passion indescriptible au Japon. Elle n'avait que 20 ans. À l'époque, première fois qu'une Japonaise gagnait un tournoi du Grand Chelem. Aux yeux de tous, elle est devenue à ce moment-là celle qui allait prendre le relais de Serena Williams, l'américaine, noire de peau également, Serena Williams, qui domine le circuit féminin depuis plus de 20 ans, avec 23 titres du Grand Chelem. Naomi Osaka a expliqué à quel point elle l'admirait, à quel point elle chérissait Serena Williams, tout ce que cela représente pour elle, de la jouer, et qu'elle se sent presque gênée de la battre, comme ça avait été le cas dans cette finale, passation de témoin en quelque sorte à New York en 2018. Les médias se sont donc emparé depuis 2-3 ans de cette histoire, Naomi Osaka, la métisse, Haïti, Japon, États-Unis, nouvelle icône du tennis mondial, dans un circuit féminin qui, à part Serena Williams, il faut bien le dire, se cherche depuis des années de nouvelles icônes, de nouvelles histoires à raconter. En conférence de presse, de plus en plus, on a posé des questions à Naomi Osaka qui dépassent le cadre du tennis, comme on peut le faire pour les stars que sont Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer. Des questions pour elle sur la place des femmes dans la société, des questions politiques, le mandat de Donald Trump, les questions raciales aux États-Unis. Naomi Osaka a joué le jeu, elle a montré plus d'une fois qu'elle n'était pas qu'une joueuse de tennis, elle a affiché ses convictions fortes dans ses fameuses conférences de presse. On se souvient de cette décision en août 2020, après une nouvelle bavure policière aux États-Unis de policiers blancs à l'encontre d'un Afro-Américain. Elle avait refusé de jouer un match au tournoi de Cincinnati. Nous étions là en plein mouvement Black Lives Matter après l'affaire George Floyd qui, elle, était survenue quelques mois plus tôt, au mois de mai, hein, l'Afro-Américain tué, étouffé par un policier blanc en mai 2020 à Minneapolis. Naomi Osaka avait, lors de ce tournoi de Cincinnati, donc refusé de jouer. Elle avait fustigé, je cite, « l'injustice raciale et les violences continues de la police ». Et elle avait fait comprendre eh bien, que le tennis était peu de choses par rapport à ce qui se passait dans son pays. Elle était devenue le porte-drapeau de ses revendications, à l'instar d'autres athlètes du sport US, en basket, en baseball. Mais dès lors, eh bien, les mêmes questions posées en conférence de presse à chaque fois. Cette pression est devenue au fil des mois pesante. Et là, avant Roland-Garros, une autre pression plus tennistique est venue s'ajouter, à savoir si son jeu était vraiment compatible avec la terre battue, hein, car elle n'a jamais très bien joué sur terre battue, alors que sur dur, US Open ou Australie, elle est quasiment imbattable. Naomi Osaka a cru bien faire en annonçant en amont, avant le début du tournoi, qu'elle n'irait pas en conférence de presse. Elle ne s'en sentait pas la force, elle n'a pas été comprise. Tout cela s'est retourné contre elle comme un boomerang. Alors bien sûr, en tant que vedette du circuit, Naomi Osaka gagne des millions et des millions de dollars. Mais aujourd'hui, l'essentiel est ailleurs. Elle ne peut plus supporter cette pression. Tout est allé trop vite. Elle est rentrée chez elle à Los Angeles pour se ressourcer. On ne peut que lui souhaiter de retrouver le sourire, le calme et la sérénité.
L'ancien Premier ministre et ancien président de la République mauricienne, Sir Anirudh Jagannath, est décédé dans la soirée du 3 juin dernier, il y a quelques jours. Âgé de 91 ans, il a occupé le poste de Premier ministre à 6 reprises depuis 1982 et le poste de président de Maurice à 2 reprises depuis 2003. Il a commencé sa carrière politique en 1963. Je vous propose, depuis nos archives, un extrait d'une interview avec Sir Anirudh Jagannath, comme on l'appelait, le Premier ministre mauricien était de passage en Australie.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Nous avons le plaisir d'accueillir le Premier ministre de l'île Maurice, Anirudh Jagannath.
L'Union africaine vient d'être créée, vient d'être lancée. Quel est le rôle de Maurice au sein de cette union?
Ah ben écoutez, comme vous savez, l'OIA existait pendant 30 ans et maintenant, on a changé l'OIA et c'est l'Union africaine qui a pris naissance. Nous avons été tout le temps un membre de l'OIA et formant partie de l'Afrique. Nous avons toujours joué notre rôle à l'intérieur de l'OIA et nous pensons pouvoir continuer de jouer de la même façon un rôle positif dans l'Union africaine. L'Union africaine a un nouveau agenda, un nouveau cahier des choses avec beaucoup d'ambition. Et il pense qu'avec des gouvernements démocratiques, avec beaucoup plus de sérieux, il faut pouvoir prendre des actions pour retirer l'Afrique de sous-développement, d'entêtement, ainsi de suite. J'espère qu'avec ce nouveau projet de NEPAD qu'on a émis et qu'on a aussi voué à faire réussir, j'espère que Maurice, nous avons une expérience de la démocratie, du bon gouvernance, tout ça. Au moment, je crois que Maurice pourra jouer un rôle très positif dans l'Union africaine.
Et les relations avec l'Union européenne et les États-Unis?
Nos relations ont été toujours très bonnes, et naturellement. Et ça va continuer comme par le passé. Au contraire, nous sommes en train de faire tout pour essayer de consolider davantage ces relations.
Et entre Maurice et l'Australie?
Nos relations, vous savez, nous sommes membres du Commonwealth. Nous avons toujours coopéré à travers le Commonwealth et aussi sur la base bilatérale. Les relations sont excellentes. Et nous avons beaucoup de commerce entre l'Australie et Maurice. Le commerce, malheureusement, a été toujours défavorable pour Maurice parce que nous importons beaucoup de l'Australie. Et nous exportons presque rien vers l'Australie. Alors c'est ça, nous sommes en train de discuter comment faire pour autrement nous aider pour pouvoir compenser cette position désavantageuse.
Monsieur le Premier ministre, quel est le bilan que vous faites de votre récent voyage en Chine? Est-ce que vous aviez eu l'impression que c'est un pays qui s'ouvre?
C'est un pays qui s'ouvre aujourd'hui. Je crois que c'est le pays, on pourrait dire, numéro un qui reçoit des investissements directs des étrangers. Et il y a un développement très, très rapide que j'ai constaté. C'était ma troisième visite officielle en Chine. Mais je peux faire la comparaison entre la première fois, deuxième fois et cette fois-ci. C'est clair que la Chine a opté pour économie de marché et très ouvert là-dessus, tout en gardant les systèmes du gouvernement. Moi, je crois que la Chine va émerger comme un géant économique dans l'avenir. J'ai pas de doute dans mon esprit. Et la Chine est un des pays amis comme l'Angleterre, la France, l'Inde, qui nous aident depuis notre indépendance. Et naturellement, cette visite va venir consolider davantage ces relations.
Monsieur le Premier ministre, sur une note un peu plus légère maintenant, quel regard portez-vous sur la participation de Maurice aux Jeux du Commonwealth ?
Eh bien, écoutez, nous avons nos athlètes qui sont en train de préparer, vont prendre part à ces Jeux. On va naturellement montrer beaucoup d'intérêt, on va suivre leurs performances et j'espère qu'ils vont faire bien. Mais surtout, nous avons en tête les Jeux des îles de l'océan Indien qui vont avoir lieu à Maurice l'année prochaine, en août. J'espère que ça va aider de préparer nos athlètes pour pouvoir mieux faire dans les Jeux de l'océan Indien l'année prochaine.
Monsieur le Premier ministre, finalement, une question qu'on demande à tout le monde, quel est le message que vous lancez à vos compatriotes ?
Mes compatriotes.
Les Mauriciens de la diaspora.
Les Mauriciens de la diaspora. Mais bien sûr, moi, je les félicite qui se sont très bien adaptés, intégrés dans les pays où ils sont partis pour vivre. Mais en même temps, je sais aussi qu'ils ont des parents, des amis dans les pays de l'origine et qu'ils ont toujours des liens et qu'il faut continuer de garder ces liens et aussi de voir de quelle façon ils pourraient aider Maurice. Par exemple, il y a certains qui peuvent investir à Maurice. Il y en a d'autres qui peuvent apporter leurs connaissances, leurs expériences à Maurice. Ils sont toujours les bienvenus, mais malgré tout, je leur souhaite bonne chance et plein de prospérité là où ils sont.
Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup.
Pas de quoi.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.